qu'il est, là.
Des fois.
Je sais rien.
On en gagne 4 en ligne. Pas un mot des Bruins dans les nouvelles de sport de Max. On en perd une 8-1, faut qu'il en parle dans 4 bulletins de sport.
Incroyable. C'est juste le retour du balancier.
Incroyable.
Quand tu gagnes avec ton équipe, t'en parles beaucoup.
Depuis que Patrick Laine est revenu, vous êtes pas endurable. C'est pas compliqué, là.
Même pas pour.
Hey, on est en mode bordel hein, présentement à Québec. Ouais. La visibilité sur les routes risque de changer dans les prochains instants, si ce n'est pas déjà fait.
C'est un genre de blizzard qui vient de s'attaquer à Le Bourgneuf au courant des dernières minutes en provenance de l'Est. Puis on nous mentionnait un petit peu plus tôt qu'à Saint-Georges, il y avait eu quelque chose de similaire. Là. Ça arrive en quelques instants, ça s'installe, c'est blanc, il vente, puis j'ai hâte de voir combien de temps ça va durer.
Soyez chill sur la route le plus possible, 88-971-1021. D'ailleurs, il y a déjà quelques problèmes, Audrey.
Oui, bien, vous rappelez que sur Henri IV Sud, à la hauteur du boulevard Laurier, la voie de droite est bloquée. C'est une panne. Le remorquage est en cours au moment où on se parle. On parlait d'un véhicule lourd, ce qui cause quand même pas mal de problèmes. À partir de Charest jusqu'au pont, c'est encore difficile. Sur la capitale, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa, il y a des problèmes également. Direction ouest, ça va se passer à la hauteur de Laurentienne. Ça commence à ralentir sur la 20, direction ouest, à la hauteur de Taniata aussi. Puis vous mentionnez qu'il y a fermeture de la route 276 entre l'avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce et Rang des Érables. Saint-Joseph-des-Érables, c'est une inondation de ce côté-là, donc on a carrément fermé la route. Sachez-le si vous y êtes là.
C'est le fun l'hiver. Hein? T'avais hâte à ça, tout ça, là, ce beau bonheur-là. Là.
Ouais, ouais. C'est sûr que moi, je ne vis pas l'hiver 100% en ville, fait que c'est peut-être différent un peu.
François Baudry est notre chroniqueur web, françoisbaudry.ca. Salut François.
Salut.
Oh, attention, on recommence.
Salut, salut, président.
C'est beaucoup mieux. Hein? Le fait qu'on t'entend, ça va aider la discussion.
Oui.
Hey, François, on va jaser aujourd'hui du commerce en ligne pour les nuls.
Oui.
Fait que dans le fond, on va donner le cours que le panier bleu aurait dû recevoir avant de se lancer, c'est ça?
Mais hein, partez-moi pas sur le panier bleu, ça c'est un autre... ça c'est bon pour un autre conversation, là, un bon 20 minutes.
Le commerce en ligne, ça peut se faire, mettons, dans trois grandes catégories?
Ouais, moi je le divise un peu en trois catégories. Fait que le commerce en ligne accessible à tous, ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire, puis là je parle pas de simplement mettre des items sur Marketplace, hein, mais il y a des micro-boutiques qui peuvent être créées très, très, très facilement. À même, ben, si vous êtes familier avec les plateformes comme Etsy,
oui. Hein,
ou Amazon, évidemment, on peut se créer une boutique sur Amazon, puis même ne pas gérer sa boutique soi-même, là, l'inventaire et tout, avec le Fulfilled by Amazon.
Comment ça fonctionne? Dans le fond, tu payes un abonnement pour ça?
Oui, avec Amazon, il y a un abonnement. Avec Etsy, c'est des frais principalement sur les transactions. Il y a différents forfaits. La beauté, c'est accessible à tout. Ça prend à peu près pas de budget pour démarrer ça. Mais la beauté là-dedans, puis c'est là que le monde souvent a des points d'interrogation au-dessus de la tête. Ça prend même pas d'inventaire.
Oh, fait que maintenant que Denis s'est découvert une passion pour le tricot, ouais. A l'intention de vendre en ligne des pantoufles.
Des Bruins de Boston.
Mais tout, c'est ça.
C'est une triste fin de carrière, je trouve.
Mais ça veut dire qu'il pourrait se lancer comme ça, partir sa boutique en ligne et attendre de voir les commandes avant de se partir un inventaire.
Ouais, oui et non. En fait, là, je rentre un peu dans le capitalisme sauvage, vous allez me dire. Là, y a des twists. Puis vous allez voir, vous en êtes victime probablement à votre insu.
Ah ouais?
Ouais. Je vous donne un exemple. Je me bâtis une belle boutique en ligne. Je vais lister un paquet de produits là-dessus. Ma boutique de choix serait sur Amazon pour faire ça. Hein? Mais tous les produits que je liste, c'est les mêmes produits que chez Walmart, Best Buy et compagnie. Hein? Un classique. Là, il y a des façons très simples de le faire. Il y a des gens qui vont faire quelques centaines de dollars par jour. On s'entend, il y a des gens qui ont viré ça en grande entreprise qui font des millions de dollars par année de cette façon-là, avec toutes sortes de logiciels. Mais on va carrément lister des produits qui sont déjà disponibles chez Best Buy, chez Walmart et tout, à quelques dollars de plus. Mm. Puis quand vous passez votre commande sur ma boutique, tout ce que je fais, je reprends vos informations et je repasse la commande directement chez Walmart que je fais livrer à votre porte, puis vous recevez une belle boîte emballée de Walmart.
C'est de même que le panier bleu aurait dû marcher.
Mais en même temps, c'est intelligent.
Oui.
C'est pas correct nécessairement.
C'est horrible.
C'est quand même intelligent.
C'est profiter du raccourci que les gens utilisent.
100%.
Fait que là, qu'est-ce que vous pensez? On peut le faire avec un ou deux ou cinq items. Il y a carrément des logiciels qui permettent de voir en temps réel les prix sur Walmart, Best Buy et tout, puis de réajuster les prix en temps réel sur notre boutique Amazon pour tout le temps avoir une marge de 5%, par exemple. Pour gérer les retours, le service à la clientèle, les gens vont souvent engager, exemple, quelqu'un aux Philippines qui va gérer ça automatiquement pour 2$, 1$ par commande.
Fait que le bon vieux magasinage a encore ses avantages. Hein?
Ouais, fait qu'il y a des façons de le faire à petite échelle, faire quelques centaines de dollars par jour ou par semaine. Puis il y a des gens qui ont pris cette twist-là puis qui l'ont amené à des niveaux assez incroyables avec toutes sortes de logiciels d'automatisation. Mais c'est une façon de le faire, là, soit avec Amazon, avec Etsy, avec ces plateformes.
Tu parlais des trois catégories là, de se lancer en business. Ouais. Là, on parlait des peut-être des individus, des gens à budget limité, puis ainsi de suite. Il y en a qui peuvent voir plus ambitieux un peu.
Oui, exactement. Fait qu'on parle de quelqu'un qui a un budget d'une couple de 100$ dans ses poches. On va aller au deuxième. On va parler de dropshipping. Le dropshipping, ou le dropshipping en bon québécois, j'ai pas du tout le terme français qui vient.
Je l'attendais, là. J'étais comme, comment tu traduis ça?
Le dropshipping, il y a des beaux avantages. Hein. C'est qu'on va se faire un commerce. On peut être sur Wix, Shopify, peu importe la plateforme. Mais à partir de notre au lieu d'investir des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, de se bâtir un inventaire, un centre de distribution, on va mettre les produits qui vont être livrés à votre maison directement du manufacturier ou d'un distributeur. Fait que ça prend une entente. Hein? Mm-hmm. On peut mettre tout le travail à développer, rencontrer ces gens-là, développer les ententes, bâtir la boutique. Il y a aussi moyen d'acheter des boutiques. Il y a carrément des compagnies. Ils vont créer la boutique, avoir les ententes déjà signées.
Un genre de clé en main.
Un clé en main. Hein?
D'ailleurs, dropshipping, en passant en français, c'est la livraison directe. Ça dit carrément ce que tu es en train d'exprimer.
Fait que la commande, ça, on en a beaucoup. Il y a des modèles hybrides où la personne va le bâtir d'un bout à l'autre elle-même. Mais là, il y a un gros avantage. C'est des centaines de milliers de dollars d'inventaire que vous n'avez pas besoin d'avoir. Puis ce qui est réellement produit et livré chez la personne, ben, il n'y a pas de surplus d'inventaire ou quoi que ce soit à gérer de votre côté, ou même de livraison, puis tous ces tracas-là.
Parce que de toute façon, quand tu te lances en business, c'est déjà pas mal compliqué. Fait que la façon la plus simple de faire, en tout cas à mes yeux, c'est de dire, ben, c'est un clé en main, tout est fait, le moule est fait, toi, t'as pas de connaissances là-dedans, puis tu sais pas trop comment ça marche, ben, tout ce que tu as à faire, c'est acheter la patente.
T'achètes de la patente. Ouais. Sauf qu'on parle d'un premier scénario où on n'a pas de budget. Le dropshipping va quand même demander d'avoir, là, nous, ce qu'on va recommander, quelqu'un qui a un cash flow, qui a un certain épargne de quelque part de 5 000 à 50 000 $ plus ou moins dans ces eaux-là. Parce que vous êtes quand même responsable de votre marketing. Il y a beaucoup de structures à mettre en place.
C'est un
de
plus gros investissement là, quand même.
On commence à parler à investir là, quand même. Okay. C'est pas rien. Versus de vendre soit avec une boutique Amazon qu'on s'est créée soi-même, Etsy.
Puis ça, il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour faire un peu d'argent sur le site, mettons, arrondir les fins de mois, faire de l'affiliation.
Ceci dit, Etsy et ses plateformes, ils vous disent que vous possédez votre site web, mais vous possédez votre site web sur leur plateforme. Uh-huh. Mm-hmm. J'ai lu une histoire absolument dégueulasse dernièrement dans les journaux. La dame, ça fait des années qu'elle roule sur Etsy. Elle avait vraiment plusieurs centaines de milliers de dollars en vente par année.
Okay.
Avec presque pas de marketing de fait. Sa clientèle était bâtie. Il y a moyen de faire de la compétition déloyale sur ces plateformes-là. Il y a quelques personnes qui se sont mis ensemble pour rapporter sa boutique, comme quoi elle vendait des systèmes qui étaient illégaux contre les conventions d'Etsy. Etsy avec un système automatisé assez nul a fermé sa boutique tout simplement du jour au lendemain. Elle s'est retrouvée le bec à l'eau.
Tabarnouche.
Sans aucun recours, sans rien.
Ça fait un an qu'elle renvoie des courriels au support et tout, puis ça n'a jamais abouti.
C'est à prendre en compte. Fait
qu'on est pris un peu en otage par ces plateformes-là.
Les grosses business.
Oui.
Mettons que tu es un gouvernement, tu as des fonds illimités.
Bon, sans parler de gouvernement ou de fonds illimités, la première chose, en fait, c'est que la plupart des gens sous-estiment l'investissement que ça prend à faire du commerce en ligne.
Mm.
Fait que quand on parle de plus gros investissements, on va les chiffrer vite comme ça. Hein, pour avoir du succès quand on fait du commerce en ligne, puis on parle toute la stratégie marketing et le site web, on part avec une plateforme web qui devrait coûter, puis il y a des exceptions, là, mais on part autour de 14-15 000 $ jusqu'à 30 000 $ pour un commerce, pour le commerce en ligne. On rajoute, ça prend les automatisations d'email marketing, 2 à 5 000 $ les frais mensuels, les frais de livraison tuent énormément de commerce en ligne. Les gens stannent, ils font beaucoup de revenus, mais à peine un break-even à la fin de l'année. Fait que les gens se découragent. le SEO à 15, 20, 30 000 $ par année. Ça va vite.
Fait quand tu te lances, c'est tous des frais que tu vois pas venir nécessairement. Là.
Non, souvent, on a des gens qui pensent, bon, ben je vais me faire faire un site sur Fiverr, ça va me coûter 5 000. Mm. Let's go, je me lance. Il y a des gens qui ont du succès. Souvent, ils vont s'éduquer eux-mêmes, puis c'est correct.
C'est comme plein de taxes de bienvenue.
Taxes de bienvenue. À chaque fois qu'on lève une roche, ouais. On se rend compte que... Puis tu sais, ces trois concepts-là, ces trois façons de faire, moi, ce que je conseille, c'est... Soyez, faut être conscient, on va sur Etsy, on n'est pas en pleine possession de nos moyens, mm-hmm. On peut avoir des mauvaises surprises, ça peut faire mal, on fait du dropshipping, on est aussi dépendant de nos fournisseurs, s'ils veulent mettre fin à l'entente, souvent on n'a pas de recours, on a peu de moyens, c'est des très grosses compagnies. Puis si on va 100% de nos propres ailes, gestion d'inventaire, employés d'entrepôt, les assurances, l'électricité, etc., les infrastructures... On recommande d'avoir au moins, dépendamment des projets, mais tu sais, d'avoir au moins 100 000 $ de disponibles comme point de départ pour couvrir la première année.
C'est pour contourner les plateformes puis essayer vraiment là, de ça.
Parce que tu sais, Denis, la plus grosse question qu'il faut se poser quand on veut se lancer dans le commerce en ligne, pourquoi est-ce que mon client ne l'achèterait pas sur Amazon?
Mm-hmm.
Il y a une confiance instantanée. Si j'ai un problème, Amazon a un support incroyable.
Ouais.
Livraison gratuite avec Prime tout le temps. Il y a un million d'avantages.
C'est rapide. Ouais, c'est ça.
Je l'ai en deux jours. Est-ce que vous allez livrer... Est-ce que votre produit est moins cher qu'Amazon, plus disponible plus rapidement, livré plus rapidement?
Dans le fond, mon exemple en joke de panier bleu, c'est un peu ça qui est arrivé. Vas te battre contre un monstre qui te rend tout disponible ou à peu près. Mm. C'est des plateformes qui sont dures à contourner. Puis si tu décides de les contourner, ben faut que tu ailles de quoi? Faut que tu ailles un argument, faut que tu ailles quelque chose d'unique qui te distingue positivement. T'sais.
Qu'est-ce qui distingue? Le point de départ souvent où on voit les gens qui se cassent les dents, c'est de se dire « Je suis une entreprise québécoise, les gens vont me supporter. »
Ah, le local.
Ouais, le local. C'est vrai, ils vont vous supporter, mais ils vous feront pas vivre, pas sur le long terme. C'est un peu... vous allez être désillusionné assez... c'était pas facile.
On s'est rendu.
Désillusionné assez rapidement. C'est dur avec tous les frais qu'il y a de relié à ça. Oui, on n'a pas le loyer à payer, on n'a pas ces choses-là, mais il y a tellement... On a le désavantage de ne pas avoir pignon sur rue. Mm. Fait que oui, on n'a pas les frais, mais au niveau les frais fixes, mais on a beaucoup plus d'argent à investir au niveau de la notoriété, de se faire connaître. Beaucoup plus difficile. J'irais, je pense pas me tromper de dire que 9 boutiques en ligne sur 10 verront pas les 3 ans.
Là. Ah ouais?
Ah oui, c'est autant que ça.
Fait que tu sais, mettons, comme entrepreneur, t'es-tu mieux de commencer pignon sur rue puis de créer ta boutique en ligne après?
Tellement dur à répondre. Je vois des boutiques en ligne, ceux qui ont beaucoup de succès, que je connais bien, sans les nommer, souvent, ils ont un commerce physique. Ils vont supplémenter leurs revenus avec la boutique en ligne.
Fait que c'est un commerce qui avait déjà une notoriété, qui avait déjà... souvent, ça va être des gens qui vont déjà avoir une expérience dans le domaine des affaires.
Exactement. Ou les très petits. Hein? Le entre-deux est plus difficile, mais exemple, les boutiques Etsy, il y en a qui ont énormément de succès.
Mais tout ce qui est artisanal, dans le fond, souvent, ça va être dur de... Tu vas avoir, mettons, des besoins auxquels tu vas répondre sur une grande portion de territoire, mais moins dans un quartier où... Fait que ça permet de compenser, là.
Oui, fait que si vous avez un talent, vous faites un certain artisanat et tout, c'est très...
Les pantoufles
très...
à Denis.
Des pantoufles, je parlerai pas là-dessus, mais c'est vraiment possible de générer des beaux revenus.
Tu m'as jamais vu tricoter. Ça me fait penser à l'industrie des jeux vidéo. On en a parlé il y a pas longtemps parce qu'il y a un studio qui a fermé ses portes, malheureusement, dans Saint-Roch, puis on expliquait que présentement, le marché, c'est soit des méga-compagnies avec des méga-budgets qui lancent des méga-projets, là, ce qu'on appelle les blockbusters et ainsi de suite. Puis t'as les indies.
Qui ont la faveur populaire. Là.
Un gars tout seul, quasiment dans son sous-sol, qui passe 7 ans de sa vie à créer son jeu vidéo comme il veut. Il est allé chercher du financement un peu. Puis tout ce qui est entre les deux a de la misère à se démarquer puis à se trouver un public. Là, t'sais.
Au Canada, c'est beaucoup plus difficile en passant. Parce qu'au Canada, nos frais de livraison sont beaucoup plus élevés, moins densité de population. Okay. Fait que c'est un frais de livraison de 17, 18, 20 $ ça vient très rapidement.
Ben oui.
Puis là, ben, tous les compétiteurs, Amazon, livraison gratuite à partir de 80 $ des trucs comme ça, ça mange le profit. Saviez-vous, la grande majorité des boutiques en ligne, la première vente qu'on fait, Il n'y a aucun profit là-dessus, jamais. Mm. Dans le fond, il y a des compagnies qui vont accepter carrément de perdre de l'argent pendant les 2-3 premières années pour se bâtir une liste de clientèle énorme.
Soyez solide, par exemple.
Oui, oui.
Mais tu sais, j'ai une business en tête, moi, Women's. Puis c'est sûr que la fille qui a parti ça, Andréane Marquis, c'est une fille qui sortait d'Occupation Double à l'époque, qui avait déjà comme un nom un peu, mais c'est une boutique de linge en ligne qu'elle a partie il y a plusieurs années maintenant. Elle n'avait pas de place physique. Là. C'est venu ça il y a à peu près 5 ans. Là. Puis elle, ça a été vraiment avec le temps, puis le, tu sais, ça a grossi, ça a pris de la place, puis ça a bien été au final, mais ça a été long, ça a été du gros travail sale.
Combien d'écrasements d'avions pour une personne qui réussit à passer cette étape-là?
3-4 ans sans profit, là, qu'elle disait qu'elle arrivait kiff-kiff. Là, c'est débile pareil.
Mais savez-vous pourquoi? C'est quoi la dynamique qui fait qu'ils se mettent à faire des profits? On ne fait pas une scène, on se retrouve avec une liste de clientèle énorme, ce qui rend la business profitable en ligne. C'est au niveau du remarketing. Acquérir un client coûte extrêmement cher. On paye un influenceur, on paye de la publicité. Une fois qu'on l'a dans notre banque de données, email marketing, des textos, ça coûte des peanuts. Puis ça fidélise la clientèle, on lui fait des offres spéciales. Puis là, c'est là qu'on se met à faire de l'argent. Fait qu'il faut qu'il y ait du repeat. Fait que c'est en plus, peu importe dans quel niveau vous classez, plus artisanal, dropshipping, la grosse boutique, faut vraiment avoir une bonne stratégie pour remarketer les gens constamment.
C'est où qu'on va chercher ces informations-là? Parce que quelqu'un qui se lance à l'aveugle là-dedans n'est pas conscient des frais, n'est pas conscient de l'implication. Y a-tu moyen de trouver ces informations-là quelque part?
Oui, ici.
Ici, oui. FrançoisBaudry.ca.
C'est dur. Puis là, je dirais, même dans mon industrie, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas... C'est dur de... On n'est pas des bons conseillers nécessairement dans l'industrie at large pour ça. Parce que c'est dur d'arriver à un client qui a envie de dépenser 100 000 chez vous puis de faire « Hey, je pense pas. » Ou non, pour l'ampleur de ton projet, toi, ça te prendrait un 300. Non, non, regarde, on va faire ce qu'on peut avec ton 100 000. Si ça marche pas, moi, j'ai payé mes salaires, j'ai eu mes dividendes à la fin de l'année. Fait que c'est la réalité.
Ouais.
De demander à une agence de marketing digital de refuser un projet ou de mieux l'orienter.
Mais en même temps, tu le rends service parce que c'est un reality check que la personne a besoin.
Chez nous, là, je vais me faire de la belle publicité, mais pour vrai, chez nous, le premier critère, c'est on regarde le projet rapidement, quelle liquidité que tu as, puis on refuse environ 2-3 projets par semaine.
OK.
Puis, tu sais, je dis jamais aux gens, moi, je viens de décider que ton projet ne marchera pas. Non, non, non. C'est je veux avoir 90 % de confiance et plus qu'on va aller quelque part ensemble.
C'est-tu des gens qui, après ça, s'en vont pleurer dans maison ou c'est des gens qui reviennent après ça puis qui ont changé leur façon de voir les choses?
Il y en a qui reviennent.
Ouais.
Il y en a qui reviennent après s'être éduqué, après avoir fait de la recherche.
OK.
Après, je pense que la première étape, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre tous les frais reliés à faire du commerce en ligne. Puis regardez, ça va être quoi votre facture moyenne? Regardez, ça va être quoi le retour sur investissement?
Mm.
Puis on comprend vite que c'est pas mal moins facile que ça peut en avoir de l'air.
François, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
FrançoisBaudry.ca pour en savoir plus. C'est aussi simple que ça. 15h27. Hey, on est dans les vieux bands ces temps-ci qui reviennent. Linkin Park et Sum 41 qui s'affrontent en finale aujourd'hui pour la toune de l'année. Puis eux autres aussi sont revenus cette année avec un nouvel album, Supercharge, des nouvelles tounes qu'on vous joue. Mais ces bands-là ont commencé à quelque part. Puis souvent, ils ont commencé avec un boom. The Offspring, c'est un peu ça l'histoire. Mm-hmm. T'as eu littéralement un smash. Ouais, c'est une joke d'album. Et un peu plus tard, une fois, puis une autre fois, puis une autre fois, on cumule les hits. Et ça, c'était sur Americana. Si je ne m'abuse, il me semble que oui.
Okay, oui.